La crue, l'inondation, un patrimoine, floods as heritage, Université de Limoges, chère capitale environnementale et gestion durable des cours d'eau, 1er et 2 octobre 2015. Intervention d'Anny Siegwald.
Bonjour, bonjour et bienvenue. On va bientôt commencer.
Alors, je vais vous présenter d'abord le contexte de ce projet de recherche. Alors d'abord, donc je travaille sur la région Pays de la Loire. C'est une région qui compte 5 départements, mais on s'intéresse plus spécialement à 3 d'entre eux, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée, où la place des marais et des vallées et alluviales est très importante, puisqu'en fait, cela occupe une surface de 140 000 hectares. Et ces 140 000 hectares sont répartis sur des sites Natura 2000, donc 10 sites Natura 2000. Donc je vais vous présenter une carte ensuite. Et donc, je pense qu'il y a, il y a une connaissance des crues et des risques associés à cette crue. Voilà, ça me paraît un peu inconcevable qu'on ait des anecdotes du type de celle qui nous est racontée là. Hein, parce que les éleveurs qui travaillent sur ces zones-là savent bien qu'elles sont susceptibles d'être inondées. En même temps, on n'est pas dans les mêmes, on n'est pas dans des configurations de crues rapides. C'est ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que on a le temps de voir venir ces crues. Les éleveurs ont des marqueurs aussi, alors pas forcément des marqueurs sous forme d'échelle de crue, mais simplement ils savent qu'à partir du moment où telle barrière commence à être les pieds dans l'eau, ben ça va venir un peu plus loin. Enfin voilà, donc ils retirent très tôt leurs animaux quand il est nécessaire de le faire. Alors je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais la transmission, en fait, c'est un processus assez long dans lequel on peut distinguer plusieurs phases, hein, donc le choix du successeur, mais aussi le transfert de la gestion de l'exploitation, la date officielle de changement du nom de chef d'exploitation, puis le transfert de la propriété. Donc ce qu'on transmet, c'est à la fois un patrimoine matériel, le foncier, les bâtiments, le cheptel, voire éventuellement des actifs immobiliers non agricoles qui ont été achetés. Ce qui m'intéresse plus, moi, c'est le patrimoine immatériel, c'est-à-dire notamment les savoirs qui sont possédés par l'agriculteur. Et c'est là qu'on revient à la crue, parce que en fait, on peut s'apercevoir que la crue, ça revient aussi à savoir gérer un certain nombre d'aléas. Donc la durée d'immersion des prairies, hein, c'est essentiellement des prairies qui sont en zone inondable, bien qu'on trouve aussi à la marge quelques cultures. Il y a une variabilité d'immersion de ces prairies dans l'année, et puis du coup ça détermine un accès différent des parcelles, voire des sièges d'exploitation qui peuvent être, dont l'accès peut être coupé aussi. Donc ça, les conséquences, c'est qu'il y a une diversité floristique de ces prairies qui sont riches en fait, mais dont la flore peut varier d'une année à l'autre. Et du coup, ça va engendrer éventuellement une appétence différente de ces animaux pour ces espèces qui changent. Et donc, il va y avoir un travail d'adaptation de l'éleveur pour la gestion de l'alimentation de ces animaux. Et puis, sur le plan physique, il y a aussi des questions de portance des sols, puisque des sols qui sont inondés vont être rapidement boueux si l'éleveur met ces animaux trop tôt. Mais ce qui peut être dit aussi, c'est que les savoirs des éleveurs sont aussi liés à la crue, sont aussi l'occasion de saisir des opportunités. Hein, historiquement, ces prairies-là, elles étaient très très valorisées, très prisées parce qu'en fait, on avait des apports de limon qui permettaient une certaine fertilité qu'il n'y avait pas ailleurs, et aussi parce que ce sont des terres encore maintenant qui, en cas de sécheresse, sont toujours à même de produire un certain volume de fourrage. Par ailleurs, sur le plan politique, ce sont des prairies qui donnent aussi la possibilité de souscrire des contrats de mesures agro-environnementales. Donc, sans que ce soit vraiment une rente, c'est quand même une opportunité de bénéficier d'aide à la mise en valeur de ces prairies. Et puis, on peut aussi déjà voir que sur le plan économique, il y a aussi des zones où on valorise ces prairies au travers de marques qui sont institués en fait pour valoriser la viande issue de ces prairies, comme la marque L'Éleveur et l'Oiseau, puis il y a le label aussi agriculture biologique, hein, puisque beaucoup des exploitations du réseau là sont de fait en agriculture biologique.